Alors, j'espère que la marche a été bonne, cette première étape. Quelques petits points un peu pour compléter votre méditation. Il y a déjà pas mal de choses dans le livret, vous l'aurez vu, sur lesquelles vous avez certainement médité en chapitre. Mais en préparant justement cette petite intervention, je me suis dit il y a plusieurs choses qui pourraient au fond être approfondies. Et j'aime bien partir de l'étymologie des mots. Et dans fidélité, la première étymologie qu'on voit, c'est le mot « foi ». Fides fidei, la foi. Ça veut dire au fond que la fidélité est aussi un acte de foi. Et dans la foi, il y a quelque chose de très particulier. C'est que la foi, c'est comme un clair-obscur. C'est-à-dire que la foi, c'est en même temps, on a une certaine clarté, une certaine évidence, on a des raisons de croire, on a des choses, des événements, des signes, mais en même temps, obscur ou en tout cas caché, c'est peut-être pas clair-obscur le bon mot, mais il y a quelque chose de caché dans la foi. La foi est un régime d'indigence. C'est-à-dire la foi est un régime de faute de la révélation, du face-à-face, de la vision béatifique. Et donc dans la foi, il y a cette dimension du déjà et du pas encore. Et je trouve que dans la fidélité, il y a quelque chose de ça aussi. Dans la fidélité, on perçoit déjà un bien, parce qu'on ne serait pas fidèle à ses amis, on ne serait pas fidèle à Dieu, on ne serait pas fidèle à son conjoint, on ne serait pas fidèle à soi-même. Alors on voit les différentes formes de fidélité, si on n'y voyait pas un bien. Et donc il y a déjà un bien qu'on perçoit, mais il y a quelque chose qui nous échappe, il y a de l'ordre de la plénitude où ça nous échappe encore, et du coup il y a quelque chose aussi un peu pénible dans le sens en même temps d'une confiance et en même temps d'une dimension d'atteindre quelque chose qui est au bout de cette fidélité, mais dont on n'a pas la claire vision encore aujourd'hui. Et je trouve intéressant de partir de cette attitude de foi que, au fond, la fidélité, c'est ce déjà et ce pas encore. Ça résume aussi notre vie. On est déjà dans l'intimité avec le Seigneur, mais pas encore dans une plénitude. Dans votre vie matrimoniale, familiale, vous êtes déjà dans la communion, mais pas encore dans une communion parfaite. Et je trouve que la fidélité, elle se situe au fond dans une charnière. Et donc la charnière, il y a quelque chose de douloureux, forcément. La charnière, c'est elle qui trinque. Hein. C'est souvent les portes, c'est par les charnières que ça casse le plus. Mais il y a cette charnière entre ce qui nous attend et que l'on verra si l'on est fidèle et ce que l'on a derrière nous, aussi au niveau du temps et qui nous précède. Et je trouve cette charnière entre le passé et l'avenir, qu'est la fidélité, je trouve ça assez intéressant à méditer. Au fond, la foi, c'est aussi une forme de charnière. Hein. On n'aura pas la foi dans l'autre monde. Hein, Saint Paul nous dit, la foi, l'espérance, la charité. La charité ne restera que dans l'autre monde. Il n'y aura plus la foi ni l'espérance. Alors donc, je pense que c'est... c'est toujours bien, en tout cas quand on a des difficultés avec la fidélité, avec une certaine enracinement, de se remettre face au bien que l'on a choisi. Et donc aussi de discerner. Parce que forcément, il y a un discernement à faire. On peut pas être fidèle partout et en tout. Je prends un exemple, les amitiés. Les amitiés, vous avez certainement eu des amitiés lorsque vous étiez en maternelle, lorsque vous étiez au lycée, lorsque vous étiez dans les études supérieures, mais que vous n'avez pas conservées, parce que ça n'avait pas vocation à être conservé. Donc, c'est intéressant de voir que dans la fidélité, il y a forcément une évolution. On y reviendra un peu après. Donc, ça veut dire un discernement. Qu'est-ce que je peux garder aujourd'hui comme fidélité, mais peut-être quelque chose que je dois laisser par derrière. Je pense à la question des amitiés, je pense à la question professionnelle. Il n'y a pas un vœu de fidélité à son entreprise, ces temps-ci encore moins de l'entreprise par rapport à soi, et peut-être parfois on s'en plaint, mais il y a peut-être, on est appelé à autre chose. J'écoutais il n'y a pas très longtemps le témoignage comme ça de Monsieur Chemin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre sur... qui est maintenant prof d'histoire dans des banlieues, et il a fait Sciences Po, et puis il était dans les cabinets d'audit, et puis bon, il avait toute une carrière, de businessman, etc. Puis à un moment donné, il s'est dit, Voilà, c'est pas ça ce à quoi le Seigneur m'appelle. Il y a quelque chose qui n'est pas rempli dans ma vie. Et il a été fidèle en passant ensuite sa agrégation d'histoire et en étant maintenant, il dit voilà, là où je veux être maintenant, c'est auprès des personnes peut-être les plus en retrait, en marge. Alors que mon père me voyait, m'a dit oui, il faut que tu fasses polytechnique, Léna, il faut que tu deviennes préfet. Il avait dit tout. Et maintenant, il me dit je suis petit prof d'histoire en banlieue. Mais il a été fidèle aussi à ce qu'il portait en lui-même. Je dis ça parce que on confond souvent fidélité et avec un côté statique. Je veux dire, ne pas aller voir ailleurs. Alors, je veux dire, dans la vie matrimoniale, c'est un peu le minimum syndical. Mais la fidélité, il y a quelque chose de dynamique. Il y a forcément quelque chose de dynamique. Il y a quelque chose qui nous appelle à... C'est cette fidélité au Saint-Esprit qui nous fait dire, tiens, il y a un appel dans ma paroisse, il y a un appel dans mon entreprise. Je discerne les appels du Seigneur et je suis fidèle en évoluant. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que dans la foi, on le voit bien aussi, dans la vie de foi, on n'a pas une vie de foi semblable. Et on n'a pas, comme dans une vie matrimoniale, comme dans une vie religieuse, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cheminement, de la progression. Mais parce qu'on a été fidèle à un moment donné à ses inspirations et à ce que l'on, au fond, percevait comme un signe du Seigneur dans notre vie, eh bien, on peut aussi cheminer. Et je crois que c'est intéressant aussi de voir cette fidélité dans cette dimension-là. La fidélité, c'est aussi un appel à la confiance. Confiance, c'est la même racine, foi. C'est-à-dire que dans la fidélité, comme je dis, on ne perçoit pas tout. Il y a quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire qu'il y a un abandon. Et vous avez un des textes dans le livret aussi qui fait allusion à ça. Il y a une dimension d'abandon, de lâcher prise. Une dimension, au fond, de ne pas vouloir tout maîtriser. Et c'est très, peut-être plus masculin que féminin, de vouloir tout maîtriser, d'avoir d'être le maître à bord et le seul maître à bord après Dieu et parfois même avant Dieu. C'est important d'avoir en même temps un discernement pour pouvoir avancer. Là encore, j'y reviens, ce discernement dans la fidélité qui est très lié, parce que si je n'ai pas eu un discernement, surtout dans les grands choix de vie, vous savez, il y a quelques grands choix de vie, au fond, il y a trois grands choix de vie dans notre existence. Il y a le choix de Dieu, il y a le choix de l'état de vie, et puis le choix professionnel qui peut évoluer, mais qui dit quand même quelque chose de ce que l'on va faire et de ce que l'on va être, et de ces trois grands choix vont découler multiples choix. Et donc, si l'on n'a pas fait un discernement suffisant antérieur à ces choix-là, vivre la fidélité, ce sera difficile parce que ça demande une confiance, mais aussi ça demande de se remettre face à la finalité de notre vie, de se remettre face à la finalité et aux objectifs de nos engagements. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est important que l'on se pose la question, comme je vous le disais, à quoi je dois être fidèle? Est-ce qu'il y a des nouvelles fidélités auxquelles le Seigneur m'appelle? Et c'est vrai qu'au fond, le Seigneur nous demande à nous-mêmes de rentrer dans une logique de don. Un autre point, de dire que la fidélité, c'est rentrer dans une logique de don. Parce que quand on voit la fidélité de Dieu, par exemple, c'est toujours intéressant de voir comment Dieu agit. C'est un Dieu fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. À un moment donné, dans l'Écriture, on dit ça. C'est un Dieu fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc la fidélité dit quelque chose de l'être de Dieu. Mais quand on voit l'être de Dieu, cette fidélité de Dieu, elle se dit d'abord par la création. Elle se dit ensuite par les prophètes, par la première alliance. Elle se dit dans ces temps qui sont les derniers par le Christ, par l'envoi de l'Esprit Saint, par l'Église. On voit que c'est une fidélité qui avance. Et ça, je pense que dans nos vies, cette idée un peu trop statique de la fidélité nous fait perdre de vue que être fidèle, c'est rentrer dans une logique de don. C'est rentrer dans une logique d'offrande et de se demander qu'est-ce que j'ai encore à donner que je n'ai pas encore donné. Et je peux très bien manquer de fidélité, par exemple à mon conjoint ou au Seigneur, tout simplement en m'enfermant dans un égoïsme. En n'étant pas attentif à ces talents que le Seigneur a pu déposer en moi et que, au fond, je me réserve, je rentre dans plutôt une logique d'enfermement. Alors, je ne vais pas voir ailleurs, oui, d'accord, mais je ne suis plus dans cette logique de don. Je ne suis plus dans une logique. À tel point que c'est intéressant de voir saint Thomas d'Aquin, quand il parle des vœux religieux, il dit « Le religieux qui renonce à se convertir, c'est-à-dire qui a pris la décision intérieurement de ne plus se convertir, est déjà dans une rupture de ses vœux. Il n'est plus dans une fidélité. » Et je trouve que c'est assez éclairant parce que nous-mêmes, c'est comme pour dire, si tu n'es pas encore en chemin, et ça fait allusion au pèlerinage, si tu n'es plus en chemin dans ta relation matrimoniale, dans la relation avec Dieu, dans la relation avec les autres, avec toi-même, si tu n'es pas encore en route ou plus en route, quelque part, voilà, tu t'es mis là, puis tu t'en bouges plus, il y a quelque chose de la fidélité qui ne se vit plus. Il y a quelque chose de la fidélité qui n'est plus au rendez-vous. Et je pense que c'est... Parce que justement, on voit dans un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui avance et un Dieu qui se donne. Et donc, on est aussi à l'image de Dieu en étant dans cette logique de don et dans cette logique d'offrande de nous-mêmes et de découvrir en fonction des étapes de la vie. Et on voit bien... la fidélité n'est pas du tout la même à 20 ans qu'à 40, qu'à 80. Et on, parce que l'amour non plus n'est pas le même et la manière d'aimer n'est pas la même. Et donc je trouve ça intéressant de découvrir au fond quelles sont ces nouvelles fidélités et en quoi j'ai pu stopper quelque chose dans ma vie qui était de l'ordre du don de moi-même. Et bien souvent, c'est à travers les épreuves. Les épreuves font qu'on peut parfois se renfermer. On peut dire voilà, on ne m'aura plus. On ne m'aura plus, je ne me laisserai plus avoir. Et c'est les épreuves, il faut veiller à ce que les épreuves soient un lieu d'ouverture du cœur et non pas de fermeture du cœur. Même si on sait bien qu'on passe alternativement par l'un et par l'autre. Mais les épreuves, c'est intéressant de voir que les épreuves pour la fidélité dynamique sont aussi un véritable... reflet de ce que je porte. J'aime bien comparer l'épreuve au temps de la photo argentique. Peut-être certains d'entre vous ont conservé leur appareil photo argentique, on mettait la pellicule et puis donc le négatif, on imprimait le négatif, un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, comme dit la chanson, et puis ensuite on mettait dans le révélateur. Et je trouve que l'épreuve, quelque part, elle est un révélateur. Elle va dire... mettre à l'extérieur ce que je porte à l'intérieur. Et donc aussi dans l'épreuve, je vais me sonder. On voit bien que le Seigneur dans la Bible, très clairement, il met à l'épreuve, non pas pour décourager, mais pour reprendre conscience de ce que je porte et ce que la personne porte, et de revérifier si je suis encore dans une logique de don ou pas. Et donc c'est intéressant quand on parle de la fidélité, de revisiter les épreuves de nos vies, même si peut-être pour la majeure partie d'entre nous, nous sommes assez... préservé, privilégié, mais il peut y avoir des épreuves dans la vie de couple, il peut y avoir des épreuves de santé, il peut y avoir des épreuves professionnelles, dans les amitiés, dans la famille, avec les enfants, les petits-enfants, et la famille élargie. On voit bien, est-ce que ça n'a pas, c'est intéressant de voir cette journée spirituelle, ce pèlerinage, de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon cœur qui s'est fermé et qui m'empêche de donner ce que j'ai à donner, qui m'empêche de porter du fruit? Parce que est liée à la fécondité, la fidélité est liée à la fécondité. Et ça, je crois que c'est aussi intéressant de dire qu'il y a un fruit que je porte en étant fidèle au Saint-Esprit et en étant fidèle à cette logique de don, à cette logique d'amour, au fond, parce que je suis aussi à l'image et à la ressemblance de l'amour. Un autre point, petit point aussi de méditation, qui dit... fidélité dit rapport au temps. Et ça, c'est assez intéressant de dire quel est le rapport au temps que j'ai. Est-ce que je vois le temps, on voit bien dans la philosophie quand on analyse le temps, et saint Augustin, ce grand philosophe qui a parlé du temps, on me demande ce que c'est, je ne sais pas, et en même temps, je le vis quotidiennement. Et donc, il y a quelque chose du mystère qui nous échappe dans le temps. Mais est-ce que je vois le temps, au fond, comme une menace ou est-ce que je vois le temps comme une opportunité? Et en fonction de la manière dont je vois le temps, par exemple, les anciens, quand je dis les anciens, c'est-à-dire les philosophes anciens, les philosophes grecs, clairement voyaient le temps comme une menace, parce que le temps, c'est le vieillissement. C'est ce qui fait la morsure des bronzes. C'est ce qui fait que, voilà, ça ne dure pas. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui ne dure pas dans le temps, donc il y a quelque chose qui nous détruit dans le temps. Mais nous, comme chrétiens, on n'a pas une vision circulaire du temps comme avaient les païens, comme avaient les Grecs, hein, de ce retour à la case départ, etc., comme l'ont aussi certaines traditions asiatiques. On n'a pas une vision circulaire du temps, on a une vision linéaire du temps. C'est qu'il y a un début et puis il y a aussi une fin. Et le temps, c'est aussi une rencontre. Et j'aime bien cette définition. Le temps, ce n'est pas quelque chose qui passe, c'est quelqu'un qui vient. Et c'est quelqu'un qui vient. Et le Seigneur, c'est le Seigneur du temps. Il habite ce temps-là par son incarnation, par sa présence, par sa naissance, le fait d'avoir pris un corps humain, être né de la Vierge Marie, il est rentré dans le temps. Et du coup, ça donne aussi à notre fidélité toute une autre perspective, je trouve. Ça ouvre la fidélité vers la manière dont nous vivons le temps, mais aussi comme un lieu de rencontre. Et la manière dont nous vivons le temps comme un lieu de déploiement de notre humanité. C'est pas simplement le lieu où on va vieillir, bien sûr, on est un an plus vieux que l'an passé pour ceux qui étaient déjà venus au pèlerinage, et pour ceux qui n'étaient pas venus aussi, ils sont un an plus vieux que l'an passé. Du reste, ça se vérifie pour chacun. Mais est-ce que je vois au fond comme un lieu, est-ce que je vois le temps comme une chance? Il y a aussi cette dimension du carpe diem, hein, vous connaissez, c'est les latins, le carpe diem, c'est-à-dire cueillir le jour. C'est ça que ça veut dire carpe diem. Est-ce qu'il y a quelque chose à cueillir dans cette fidélité au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose de la fécondité? Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est la question de l'ennui. De l'ennui, du manque de goût, parce que ça fait longtemps peut-être qu'on est dans une relation, bon, évidemment la relation matrimoniale, dans la relation d'amitié, dans la relation d'entreprise, etc., etc. Et parfois on peut passer, et je crois que ça fait partie aussi des étapes de la fidélité, par des étapes d'ennui. C'est ce que les spirituels appellent l'acédie. L'acédie, c'est-à-dire le manque de goût, la privation de goût. Je n'ai plus de goût pour faire ce que je fais. Je n'ai plus de goût peut-être pour vivre avec mon épouse. Hein, et je changerais bien une femme de 50 contre deux de 25. Et je changerais bien, voilà. Il y a l'idée de dire, voilà, peut-être le bonheur est ailleurs. Et l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Et on voit bien que c'est en nous quelque chose qui nous taraude. Et parce qu'on est enraciné dans le temps, et donc du coup il y a quelque chose on n'est pas dans l'éternité, on n'est pas dans cet instant éternel, cet instant de Dieu, on est dans quelque chose qui passe, mais en même temps qui nous marque, et quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et je trouve que la fidélité de ce point de vue-là, c'est découvrir le temps comme un allié, et non pas comme un ennemi. Et je trouve que c'est très beau aussi de faire une relecture de vie et de dire, au fond, dans ce temps qui m'a été donné par rapport à l'an passé, hein, pour sur une année, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu? En quoi cette année m'a construit? En quoi cette année a été un lieu de fécondité, un lieu de rencontre avec Dieu, avec mon prochain, avec moi-même? En quoi cette année a été aussi un lieu de construction? Parce que je trouve que dans la fidélité, ce qui est très beau, et surtout les petites fidélités du quotidien, il y a cette idée de construction, cette idée d'unification de la personne. Je me méfie beaucoup des grandes ruptures. Oui, des grandes ruptures. Et ça peut être une tentation, hein, c'est clairement, peut-être pour certains plus que pour d'autres. Je me souviens comme ça de cette jeune fille qui, dans une retraite, me disait, bon voilà, je suis de famille catholique, je suis impliqué dans les mouvements, etc. Mais au fond, je me dis, mais est-ce que tout ça, toute la religion, est-ce que je ne devrais pas l'envoyer balader tout ça? Est-ce que je ne devrais pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et je vois qu'ils ne sont pas plus malheureux que moi, et ils se posent beaucoup moins de questions que moi. Est-ce que je ne devrais pas envoyer... Et je me dis, cette attraction aussi pour une autre manière de vivre, c'est la vie sans Dieu, par exemple, ça peut être parfois une vraie tentation, parce qu'on se dit qu'on se met trop de pression, il y a trop d'interdits, il y a trop d'exigences avec la vie avec le... Alors, vous voyez, on peut percevoir la vie avec le Seigneur comme ça. ben voilà, soyons libres, lâchons-nous, etc. Maintenant, je trouve que c'est... j'aime beaucoup cette parole de Saint-Pierre, mais à qui rions-nous, Seigneur ? Attention à ces grandes ruptures dans notre vie, je veux dire, ces grandes ruptures qui nous font aller, qui nous font casser des choses qui existaient, peut-être modestement, peut-être de façon fragile. De toute façon, nous nous inscrivons toujours dans une fragilité. Faut pas croire, nos relations sont fragiles, nos humanités sont fragiles, nos santé sont fragiles. Nous nous inscrivons dans cette fragilité. Mais dans cette fragilité, il y a quelque chose qui se construit. Attention aux grandes ruptures, aux grandes cassures, qui ne sont pas le fruit du Saint-Esprit, qui n'ont pas été le fruit d'un discernement, parce qu'il y a dans ces grandes cassures quelque chose que l'on avait construit, une fécondité qui était au rendez-vous, et qui ensuite ne l'est plus. Il y a quelque chose à rebâtir. Je suis très perplexe par rapport à ça. Il peut y avoir, je peux donner des exemples de grandes cassures qui ont porté du fruit. Par exemple, Mère Teresa a quitté sa congrégation pour fonder une autre congrégation. Mais tous ceux qui quittent leur congrégation ne sont pas des Mères Teresa. Il y en a beaucoup qui sont allés, qui sont complètement perdus ensuite, hein, qui sont complètement dans un vague. Certains ont choisi une autre forme de vie professionnelle, mais certains ont aussi dérapé au plan professionnel, pensant aller, je ne sais pas quoi, en changeant, etc. Et ont perdu pied, ou dans les amitiés, ou dans leur vie avec Dieu. Donc, avant de casser ce qui a été construit patiemment, de ce goutte à goutte du quotidien, et qui nous construit au fond, quand on se met face au bien, face au bonheur, parce que le thème c'est vraiment la fidélité comme un lieu de bonheur, ben, prenons conscience de tout ce que nous avons construit déjà depuis, l'âge adulte, depuis nos grands engagements, tout ce qui a été construit, et rendons grâce pour tout ce qui a été construit, mais qui reste encore fragile. Ne soyons pas prétentieux de ce point de vue-là. Ça reste toujours fragile. Et ne disons pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Parce que je crois que de ce côté-là, il y aurait une prétention, que ce soit dans notre relation avec Dieu ou dans nos différentes relations, particulièrement avec nos proches, il peut y avoir justement quelque chose qui... Voilà. Nous sommes des personnes nous sommes toujours en chemin. Nous sommes toujours en devenir. Et la fidélité fait que nous sommes dans un devenir, mais qui s'approfondit. Un devenir qui se construit, un devenir qui nous unifie. Mais en même temps, il y a un combat. Forcément, il y a un combat. Parce que je disais la question de l'ennui, je pense qu'on y passe tous, à un moment donné, de sa vie, et ça peut être aussi une forme de tentation que de toujours rechercher l'émotion forte. On voit ça plutôt chez les jeunes, ça c'est vrai que j'en parle souvent aux jeunes, ce zapping continuel de dire voilà, je vais d'émotion forte en émotion forte, je vais d'événements un peu émotionnels où j'ai au plan émotionnel ça me transcende, ça m'émoustille, etc. Et je vais d'événement en événement comme ça sans vraiment tracer une ligne de conduite. Et du coup, ça me fragilise. Et ça me fragilise et ça peut parfois même me décourager. Parce que justement, j'ai plus cette fidélité. Alors, je crois que c'est important d'être accompagné dans sa fidélité, justement, parce qu'on passe par des moments de tentation, on passe par des moments d'ennui, des moments de manque de goût, de pourquoi je suis là, au fond, mais est-ce que je serais pas mieux ailleurs, etc. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est intéressant de découvrir dans notre vie que l'on a besoin aussi d'être accompagné dans notre fidélité, d'avoir quelqu'un, peut-être un aîné dans la foi, ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, par exemple, mais qui va nous aider justement à relire que cette fidélité, elle a porté du fruit. Parce qu'au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, ce qu'on voit le moins, c'est justement la fécondité. C'est ce qu'on voit le moins. Et on ne voit pas à quoi ça sert, à quoi ça a servi tout ça. C'est quoi le sens de tout ça? Et je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un peut-être extérieur qui nous redise, voilà ce que vous avez vécu, regardez tous les fruits qui ont été semés. Et je trouve que ça peut être une belle occasion, ce pèlerinage, que de vraiment remettre sous le regard du Seigneur, mais de refaire mémoire des fruits qu'on a pu porter dans notre existence. Parce qu'il y a parfois cette image négative de nous-mêmes, cette forme de perfectionnisme, qui est un grand ennemi de la fidélité, au fond, hein, le perfectionnisme, hein, parce que c'est aussi un ennemi de l'amour, mais qui nous fait dire, voilà, c'est jamais assez bien, c'est cette négativité qui parfois peut nous envahir. Eh bien non, demandons au Seigneur que de voir qu'à travers les petites fidélités du quotidien, il y a eu une construction, il y a eu un fruit qui a été porté. Donc ça demande un combat intérieur, je parlais de la question du temps, hein, un combat intérieur, mais aussi donc un combat spirituel. Vous avez quelque chose dans vos livrets sur le combat spirituel, vous pourrez y revenir aussi. On ne passe pas une vie sans, dans la fidélité, sans à un moment donné un combat intérieur, sans être tiraillé intérieurement. Et donc... Et donc, je pense que c'est important que nous-mêmes nous découvrions quel est peut-être notre combat, peut-être plus fort en ce moment. Peut-être nous avons un combat intérieur plus fort que nous portons et pour lequel on veut demander des grâces. Et je crois que lors d'un pèlerinage, c'est un temps où on reçoit des grâces particulières. Et donc, vous pourrez peut-être demander pour telle ou telle chose des grâces parce que vous sentez qu'il y a un tiraillement, ça tiraille très fort pour continuer dans cette fécondité, dans cette fidélité que vous vous êtes tracée. En même temps, j'aimerais aussi méditer aussi avec vous sur le chemin de bonheur. C'est un chemin de bonheur, c'est-à-dire c'est un chemin d'apaisement, la fidélité. Je trouve que, je ne sais pas vous, mais avec l'âge, il y a des questions qu'on a derrière nous. On n'est pas sans cesse avec 1000 questions, avec de se remettre en question sans cesse, etc. Bien sûr qu'il y a une fidélité dynamique, mais il y aurait une forme d'instabilité intérieure de se remettre en cause, qui fait qu'on ne peut pas construire quelque chose. Et je trouve que dans la fidélité, il y a un des fruits de la fidélité, c'est l'apaisement. Il y a des questions que l'on ne se pose plus à un moment donné parce que ça fait partie d'une évidence. Les choix de vie, par exemple, à un moment donné, on ne va pas reconstruire tout de zéro. Le choix de Dieu, peut-être, dans notre existence, est quelque chose d'acquis. Voilà, c'est quelque chose de stable. Et ça a été le fruit de fidélité, peut-être, dont on ne s'est pas rendu compte. Ça a été le fruit de décision. Et je trouve que dans la fidélité, il y a aussi notre engagement qui est là, au rendez-vous, et de se poser la question, les engagements que l'on a pris, dans quelle mesure ils nous ont construits, dans quelle mesure ils nous ont unifiés, ou dans quelle mesure, au contraire, ils nous ont fragilisés, ils nous ont déstabilisés. Et je pense que pour chacun d'entre nous, en tout cas, c'est un chemin de bonheur voulu par le Seigneur, si Dieu lui-même est fidèle, et c'est ce que, comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose qui le définit, car il ne peut se renier lui-même. Je trouve ça intéressant de dire que dans notre vie, il y a une fidélité qui nous unifie, qui nous apaise, qui nous construit, qui fait qu'on est l'homme que l'on est aujourd'hui et qui, au fond, nous redonne cette confiance et nous redonne cette espérance. Parce que, au fond, c'est important de dire, je pense à la fidélité à soi-même, par exemple. Si on n'est pas assez fidèle à soi-même, c'est-à-dire si on passe... Et la fidélité à soi-même, derrière ça, c'est une fidélité à une vie intérieure, à découvrir une vie intérieure. Et je pense que... est aussi une des clés de la fidélité le temps que l'on passe dans la prière et le temps que l'on passe dans le silence et profiter de ce temps-là qui vous est donné aujourd'hui à la fois de prière et de silence pour intérioriser et découvrir en vous, au fond, ce bonheur auquel vous êtes appelé. Et bien souvent, je trouve ce qui fragilise nos fidélités, c'est une forme d'éclatement, une forme de... On voit bien, le monde agit par distraction, Dieu agit par attraction. Et alors que... Donc cette forme d'éclatement qui nous déstabilise, cette forme d'activisme. Cette forme d'activisme dont on peut être tous victimes, quel que soit notre état de vie. Hein. Cette peur de l'agenda vide, hein, qui nous fragilise alors que, justement, donc on en revient au rapport au temps, parce que bah, c'est un peu tout lié, évidemment, mais je trouve c'est intéressant de dire que s'enracine dans la fidélité celui qui a une vie intérieure, celui qui prie, celui qui prend du temps pour découvrir le bonheur auquel le Seigneur l'appelle ici et maintenant. Et du coup, je trouve que c'est aussi un des lieux de fidélité que la prière, même si ce n'est pas le lieu de fidélité le plus facile. Il y a un grand combat spirituel pour la prière, parce qu'au moment de la prière, évidemment, on a plein de choses à faire, autres que ce pourquoi on s'était donné le temps de la rencontre avec Dieu. Et donc, dans la prière, c'est peut-être un lieu de combat plus important, parce que dans la prière, ce n'est pas nous qui avons la manette, c'est les manettes. Nous ne sommes pas aux commandes dans la prière, bien sûr. Nous sommes aux commandes dans la décision de prendre ce temps de prière. Mais dans la rencontre qui fait l'essence de la prière, ça ne dépend pas de nous. Et c'est pour ça que la prière nous est difficile. Parce qu'il y a quelque chose auquel on se livre, auquel on se dispose, mais en même temps dont on n'a pas les clés. La prière, c'est pas comme une technique, c'est pas une quelque chose que l'on fait à la force du poignet, etc. C'est un lieu de rencontre, mais en même temps qui, justement, l'initiative nous échappe de cette rencontre. L'initiative vient de Dieu. Et c'est pour ça que ça nous est difficile. Et je trouve que dans la prière, au fond, ce sont toutes nos fidélités qui sont portées aussi. Parce que on se remet face à notre finalité, à nos objectifs, à nos engagements. Et à travers cette prière-là, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui nous redit là où il nous appelle, le chemin de bonheur auquel il nous appelle, parce que c'est vraiment un chemin de bonheur qu'il veut pour nous. Et je pense que cette prière aussi nous appelle à une vie intérieure et qui nous construit, qui nous unifie. Hein, et puis aussi un dernier point, mais la fidélité, il y a des moments où on la supporte, mais il y a des moments où elle nous porte. Parce que c'est une seconde nature. C'est quelque chose qui s'est développé en nous. Je parlais de la prière, j'ai parlé de la relation avec Dieu, de la fidélité matrimoniale, de la fidélité dans les amitiés. Ça devient une seconde nature. Au début, peut-être, c'est plus difficile. Parce que les débuts sont souvent difficiles. Hein, et donc, du coup, il y a quelque chose à mettre en place. Hein, celui qui veut après être fidèle, par exemple, à l'alcoolique qui veut sortir de son alcoolisme et qui veut être fidèle à cette décision qu'il a prise, les premiers pas pour aller dans le chemin du bonheur, et, évidemment, sont toujours les plus difficiles. Mais le centième pas, le millième pas, eh bien, ça devient une seconde nature. Et je pense que c'est important, et c'est là où je trouve qu'il y a une promesse dans la fidélité, c'est que au début, on l'a, quelque part, il y a quelque chose à supporter, il y a quelque chose un peu de difficile, douloureux, pénible, une pénibilité, mais ensuite, c'est cette fidélité-là qui te porte et qui t'emmène plus loin, justement lorsque tu n'as peut-être plus la force de la décision, lorsque la force intérieure n'est plus là au rendez-vous, mais c'est la fidélité du quotidien, un peu comme un bateau qui avance, vous voyez, on coupe les moteurs, eh bien, il va sur sa portée, il va sur son allant, il va sur... je crois que la fidélité, il y a quelque chose de ça aussi, c'est que c'est une seconde nature, et donc du coup, même si on n'a plus l'émotion au rendez-vous, je pense dans la relation matrimoniale, on voit bien que l'émotion n'est pas toujours au rendez-vous pour accompagner des couples, je me rends bien compte, dans la relation avec Dieu, c'est pareil, il n'y a pas toujours de l'ordre, c'est pas toujours de l'émotion, mais si on l'a vécu dans une fidélité, ben, si cette émotion-là n'est plus au rendez-vous, ben, les différents actes que l'on a portés, eh bien, vont nous emmener plus loin, jusqu'à un autre point de rencontre, on sera remis en contact avec notre vie, on aura une grâce particulière qui nous fera ensuite cheminer, qui nous rallumera les moteurs, entre guillemets, et qui nous emmènera plus loin. Hein. Et puis, un point aussi qui est intéressant, dans la parabole des talents. Je terminerai par ça, par cette parabole des talents. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos carnets, mais cette parabole des talents, à un moment donné, donc vous connaissez bien, le roi qui appelle ses serviteurs, etc., donne à trois d'entre eux des talents 10, 5 et 1. Et puis, ceux qui ont fait porter du fruit, comment il les appelle ? Serviteurs bons et fidèles. Entre dans la joie de ton maître. Et je trouve ça intéressant de voir qu'au fond, il y a quelque chose de la joie qui est liée à la fidélité. Il y a quelque chose de la joie intérieure. Et on peut se poser la question, nos tristesses, bon, il peut y avoir un moment d'assédie, un passage à vide, mais est-ce que nos tristesses ne seraient pas dues justement à ce papillonnage, à cet activisme, à ce manque de vie intérieure, à ce perfectionnisme qui nous fait toujours aller chercher ailleurs le bonheur, alors qu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et je trouve que dans la parabole des talents, qu'est-ce que le Seigneur demande à ceux à qui il a donné ses talents, ses pièces ? Il demande une fécondité. Et il demande de lui redonner cette fécondité. Hein ? Voilà, tu m'en as donné 5, je t'en redonne 10. Il y a quelque chose à redonner, hein, de la fécondité. Elle ne nous appartient pas. Elle nous échappe quelque part, la fécondité de nos vies. Et heureusement, on ne sait pas tout le bien qu'on fait, de même on ne sait pas non plus tout le mal qu'on fait, et sinon ça nous découragerait. Mais alors que celui qui n'a reçu qu'un talent, voilà, serviteur mauvais. J'ai eu peur, vous reconnaissez, vous rappelez, hein, j'ai eu peur parce que je sais que tu es un maître exigeant, tu récoltes là où tu n'as pas semé, etc., etc. J'ai eu peur de toi, j'ai enfoui mon talent, le voici, reprends ton dû. Et bien souvent, et ça rejoint ce que l'on a vu au début de notre méditation, ce qui est un obstacle à la fidélité, c'est la peur. C'est cette peur de l'avenir, cette peur de ne plus être utile, cette peur de ne plus être consulté, cette peur de ne plus être au centre. C'est bien souvent des peurs qui nous emmènent loin de nos fidélités. Hein, et je crois, cette peur de vieillir, par exemple, cette peur de passer à côté de l'opportunité. Donc du coup, je suis toujours en train de m'oustiller, toujours en train de chercher ailleurs s'il n'y a pas quelque chose. Et je crois que, au contraire, ce qui va nous construire, ce sont ces fidélités quotidiennes, ce pain quotidien de la fidélité qui va nous faire entrer dans la joie du maître et qui va nous faire entrer dans la joie de la communion avec Dieu, de la communion avec nous-mêmes aussi, avec ce que nous portons de plus intime, et de la communion avec nos proches, et en particulier, vous êtes père de famille, ben, la communion avec vos familles. Et je crois que cette joie-là, elle est à la clé de la fécondité, elle est au bout des fidélités. Et je pense que c'est cette joie-là aussi à laquelle le Seigneur nous appelle, qui demande foi et confiance, qui demande le combat spirituel, qui demande aussi cette intériorité, cette joie-là que l'on perçoit déjà en anticipation, hein, pas encore dans la plénitude, comme on l'a dit, mais c'est cette joie-là en tout cas que je vous souhaite à chacun d'entre vous dans vos fidélités au quotidien, de remettez-vous face à cet appel du Seigneur, face au grand choix de vos vies, face aux petits choix quotidiens que vous avez apportés, sachant aussi que cette joie du Maître vous attend. Amen.